Bonsoir à tous, merci d'être présents. Aujourd'hui, pour notre rencontre littéraire, nous avons le plaisir d'accueillir un éminent professeur de littérature française et d'études théâtrales à Stanford, Monsieur Jean-Marie Apostolides, qui est également, comme vous l'aurez compris, un éminent spécialiste de l'œuvre d'Hergé et de Tintin en particulier. Alors, comme vous avez très justement intitulé votre ouvrage, vous soutenez la thèse que Tintin est une espèce de peau symbolique, en fait, sur laquelle se sont projetés de façon fantasmatique et tour à tour, à la fois son créateur, mais également ses lecteurs. Vous soutenez donc, me semble-t-il, une double démarche. D'un côté, vous étudiez le pôle de la création et de la production, donc en montrant la façon dont Hergé investit son personnage de ses peurs, de ses aspirations, mais également de ses traumatismes infantiles qui, d'une façon ou d'une autre, vont être objectivés dans le récit. Et d'un autre côté, vous étudiez le pôle de la réception, où cette fois, ce sont les lecteurs qui s'identifient au personnage et revêtent sa peau réellement, d'où le titre, pour affronter les dangers du monde et tout ce qu'il recèle de dangereux et à la manière de Tintin, en vérité. Donc, vous avez, et je dois vous le dire en premier lieu, élaboré un travail vraiment remarquable. Votre liste bibliographique est tout simplement impressionnante. Vous poussez très loin dans le détail votre analyse. Donc, il est difficile de s'y frotter quand on est néophyte et pas du tout aussi éminente que vous, mais je vais tout de même m'y essayer. Alors, ma première question à ce propos-là, c'est que vous commencez votre ouvrage en définissant Tintin comme une figure mythique. Or, justement, comme vous prenez l'exemple d'Anjo et Zette, le mythe a vraiment une dimension temporelle, évolutive, et elle demande la création de représentations du monde. Du coup, je me demandais si Tintin n'était pas plutôt qu'une figure mythique, une figure littéraire qui équivaudrait à celle du super-héros. Quoique vous n'utilisiez jamais ce terme, je me disais que tout de même, il y avait beaucoup d'attributs qu'il semble avoir. Le costume qui le représente, la double nature, à la fois un corps physique qui est une espèce de visage ouvert à tous et tel qu'on peut le représenter, mais en même temps un corps mystique qui est le corps des valeurs qu'il défend face au monde. Surtout, Tintin a un super pouvoir. Son sang ne coule quasi jamais. Il est impénétrable, voire invincible. Il est presque passe-muraille. Il est très acrobate. Et enfin, il est immuable. Il ne vieillit pas. Il n'a pas vraiment de dimension évolutive. Et donc, je me demandais, puisque dans un autre ouvrage, vous aviez qualifié Tintin de surenfant, si votre définition du surenfant pouvait équivaloir à celle de... du super-héros.
D'accord. Merci d'abord de cette présentation que vous venez de faire. On ne va pas passer la soirée à se retourner des compliments, mais j'apprécie vraiment la clarté avec laquelle vous avez résumé mon livre. Et objectivement, il ne me reste plus grand-chose à dire. Mais je voudrais quand même, avant de parler, remercier les quelques personnes qui sont là et qui nous font l'honneur de nous écouter. C'est vraiment très gentil de votre part. Je crois que ce que vous m'avez laissé à dire, c'est plutôt des anecdotes, mais pourquoi pas, qui sont entre les chapitres du livre. Je vais néanmoins jouer le jeu que vous me suggérez ou que vous m'imposez et je vais répondre à votre question. Et si je fais un petit peu trop prof, un petit peu trop pédant, un petit peu trop cuistre, disons-le, je prie l'honorable audience de m'en excuser. C'est un défaut professionnel. Je gagne ma vie en enseignant aux jeunes générations et j'ai un petit peu tendance à pontifier. Alors ne m'en veuillez pas trop si je le fais. Mais il me semble néanmoins que ce qui caractérise la modernité, c'est un rapport différent de la relation entre les adultes et les enfants, ou en termes un petit peu analytiques, entre le père et le fils. Dans la tradition clairement définie par Freud, dans la tradition bourgeoise, c'est le fils qui, rencontrant son père ou l'image de son père au carrefour des routes, le tu. Ce qui me semble caractériser la littérature plus tardive, c'est-à-dire la période pendant laquelle la société patriarcale est en train de s'effriter, peut-être même de s'effondrer, et je crois qu'aujourd'hui, cette société est entièrement effondrée, eh bien, c'est un rapport inverse. C'est le père qui essaye de tuer le fils. Et il y a de nombreux exemples littéraires de cela, où c'est une perversion de l'instinct paternel, mais on a plusieurs exemples dans la littérature du père qui cherche à détruire le fils. Mais en même temps, il se développe à partir de la fin du XIXe siècle et surtout après la Première Guerre mondiale, toute une littérature dans laquelle l'enfant à la fois peut vivre sans les parents, se débarrasse des parents et est doué de pouvoirs exceptionnels. L'exemple le plus probant est un texte que peut-être certains d'entre vous connaissent qui s'appelle « Victor » ou « Les enfants au pouvoir » qui est une pièce de Roger Vitrac et qui est une pièce mythique, extraordinaire, l'histoire d'un enfant de 9 ans qui est déjà un adulte et qui humilie toute la société adulte. En d'autres mots, à partir du moment où la transmission ne se fait plus d'une génération à une autre, et c'est ça qui caractérise la modernité, et ceux d'entre vous qui sont pères ou mères de famille, vous le savez, qu'est-ce qu'on peut transmettre à nos enfants et comment on peut leur transmettre? Eh bien, on est dans une société où le père ne peut pas transmettre à son fils, mais c'est le contraire, c'est le fils qui va apprendre à son père. Et c'est cela que j'ai appelé le surenfant ou le mythe du surenfant. C'est un mythe caché dans la littérature. Et il me semble que d'une certaine façon, du moins, Hergé participe à ça. Bien sûr, dans toutes les apparences, Tintin n'a pas de père, puisqu'il n'a pas de nom, ou plutôt son nom c'est Tintin. Mais néanmoins, c'est un surenfant. Il a entre 13 et 16 ans. Et il est tout puissant, au moins au début. Il résout beaucoup de problèmes, donc il participe à ce mythe du surenfant et c'est peut-être le point d'origine, il y en a sûrement d'autres, qui lui permet de se développer en mythe, au moins dans les pays francophones, je dirais. La Belgique en premier et puis éventuellement la France et le Québec. Je ne sais pas si j'ai très bien répondu à votre question, j'ai essayé d'être clair.
Oui, d'autant plus que, enfin, on se rend compte qu'ad hoc, figure ce père un petit peu de substitution auquel il apporte aide et réconfort. Parce qu'au départ, quand on découvre Haddock, il est au fond du trou, il boit, il est complètement désespéré. Et finalement, c'est Tintin qui lui permet de se remettre sur les rails.
Je ne sais pas si je peux répondre d'une façon totalement pertinente. Et j'ai l'impression qu'il y a en plus dans cette assemblée des gens qui sont largement aussi compétents que moi, sinon davantage, pour répondre à la question. Mais néanmoins, je vais me jeter à l'eau. Il semble que, au départ, c'est-à-dire au moment où il écrit Le crabe aux pinces d'or, Hergé hésite. Il nous présente face à son gamin de 14 ans un homme adulte qui a à peu près 40 ans et qui pourrait très, très honnêtement faire une figure paternelle de Tintin. Mais il se trouve que, premièrement, Haddock n'arrive pas à être un père, non seulement parce qu'il est alcoolique, qu'il est névrosé, mais parce que lui-même n'est pas adulte. Il pleurniche, il est complaisant, il appelle sa maman, maman. C'est un enfant. Sous la figure d'un père, c'est en fait un frère aîné de Tintin. Et Tintin, de son côté, n'arrive pas à le considérer lui-même comme père. On dirait, c'est une intuition hein, que je vous lance ici, j'improvise un petit peu, on dirait que l'œuvre d'Hergé est une œuvre qui est constamment en quête de père et on ne parvient jamais à établir une véritable figure paternelle parce que la même chose va se renouveler à l'égard de Tournesol. Tournesol, il est encore plus âgé, il pourrait être le grand-père de Tintin. Eh bien, néanmoins, non, il aboutit au statut de frère aîné. Donc, on a une fratrie, j'y reviens dans une seconde. Il me semble, avec tous les risques qu'une interprétation un petit peu sauvage, un petit peu schématique peut entraîner, il me semble que la seule figure véritablement paternelle dans les aventures de Tintin, ce soit le chevalier François de Haddock. Il est lointain, il est prestigieux, il est aristocrate, il vient d'un temps où le patriarcat était absolu, et il modèle son comportement sur celle de son roi, c'est un père. Les autres, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire ? À constituer une fratrie. Ce sont trois frères unis, ils vont vivre ensemble, ils vont dépasser leurs fantasmes. Au début, inutile de dire que tous les gens qui ont des affinités avec la psychanalyse s'en sont donnés à cœur joie quand on voit Haddock se livrer littéralement, j'exagère pas, à quasi un viol sur Tintin dans le crabeau pince d'or. C'est pas un comportement paternel, ça. Ça l'éloigne, ça l'élimine totalement comme figure paternelle. On dirait qu'Hergé, on a reproché beaucoup à Hergé de ne pas arriver à mettre en scène des figures féminines. On pourrait presque lui faire le même reproche, entre guillemets, c'est pas un reproche, c'est la structure de son univers. Il ne parvient pas à faire non plus des figures paternelles, sauf sous la trace d'un roi qui est tellement grand, tellement prestigieux, que Tintin n'a plus qu'à essayer de le sauver, lui rendre son sceptre et se faire inviter dans son beau château.
Donc en vérité, il y aurait un défaut des figures de l'autorité, si je comprends bien.
Oui, tout à fait. Et c'est peut-être pour ça qu'on le lit encore aujourd'hui. Indépendamment du talent d'Hergé, qui n'en manquait pas, il a écrit ses livres dans un contexte social qui n'est plus du tout le nôtre. Il y a plus de rapport entre la société catholique, traditionnelle, dans laquelle Hergé a écrit sa saga tintinienne, et la société dans laquelle on vit, dans laquelle la structure d'autorité est entièrement détruite, dans laquelle l'image et la monnaie sont les médiations entre nous dans toutes les actions de notre vie, et dans laquelle on possède une technologie qui est mille fois plus complexe que celle qu'Hergé a envisagée. Et pourtant, sous toute réserve, il semble que les jeunes générations s'intéressent de nouveau, ou pourraient peut-être s'intéresser encore de nouveau à Tintin. Donc que nous ne serions pas la dernière génération nostalgique de ce petit bonhomme, mais que peut-être il a encore des choses à dire pour les générations à venir. Je mets peut-être réellement avec un point d'interrogation, je n'ai pas de certitude de ce côté-là. Eh bien, s'il arrive à nous intéresser, nous qui vivons dans une société post-patriarcale, nous qui vivons dans une société où la notion d'autorité n'existe plus, c'est parce qu'il y a des éléments de modernité ou d'hypermodernité, non pas dans Haddock ni dans Tournesol, mais dans Tintin, qui fait qu'il peut peut-être être encore un pôle d'enracinement pour les jeunes lecteurs d'aujourd'hui. Peut-être.
C'est intéressant que vous parliez justement du fait que le défaut d'autorité soit complètement représentatif de notre modernité. Parce qu'en plus de ça, vous dites à un certain moment, je cite, « L'ensemble des albums remplit la fonction d'une structure totémique. » Donc, il faut comprendre par là que la série des Tintins se présenterait comme une espèce de rite d'initiation que les sociétés humaines ont de tout temps imposé à leurs petits pour leur faire passer au stade adulte. Et donc, déjà, dans cette structure-là, il y a une espèce de portée universelle qui elle-même est complètement, pas moderne, justement, qui est complètement universelle, qui est immuable, qui est intemporelle. Donc il regrouperait justement ces deux pôles de la modernité et en même temps de l'universalité des fonctions.
Si je faisais l'auteur, je vous dirais que le plus moderne rejoint le plus archaïque. Disons que dans l'optique anthropologique du début du XXe, il y a vraiment une rupture entre les sociétés sauvages et nous, les modernes. Je crois qu'on a réprimé avec légèreté tous les traits qui nous attachaient aux sociétés traditionnelles, archaïques, non littéraires, les sociétés sans écriture. Et il me semble que, comme vous l'avez dit ou comme vous l'avez rappelé avec gentillesse, il me semble qu'effectivement, Tintin représente pour nous une structure totémique. Donc, fait appel à quelque chose d'archaïque qu'on est censé ne rencontrer que dans les sociétés dites primitives, quand on utilisait ce terme, mais qui en réalité existe encore aujourd'hui et est quelque chose de très fort. D'où le fait que j'ai parlé de peau, d'enveloppement. Au départ, ce sont des concepts qui sont empruntés à la psychologie des profondeurs, à la psychanalyse. Et puis, je me suis rendu compte que c'était encore très fort pour nous. Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à Tintin? Pourquoi est-ce qu'on se sent un groupe de tintinophiles? Parce que, objectivement, bon, il y a des qualités que Philippe Godin, ici présent, a montré chez Hergé. Mais enfin, ce qu'on oublie un peu vite, c'est qu'il y a aussi pas mal de niaiseries qui auraient dû normalement faire qu'on aurait dû oublier depuis très longtemps toute cette saga. Or, ça continue à se vendre. Et les gens continuent à trouver de l'intérêt. C'est qu'au-delà du talent d'Hergé, qui est grand, il y a quelque chose qui fait qu'on se sent attaché à cela. Personnellement, je ne l'avais pas compris. Je l'ai compris quand j'ai connu un artiste québécois qui est mon ami, qui s'appelle Luc Giard, à qui le livre est dédié. J'aurais peut-être dû expliquer pourquoi ce livre lui est dédié. Luc Giard est à la fois un très grand artiste au Québec, mais complètement seul. Un gars qui a énormément de problèmes d'autisme et psychologiques. Et toute une partie, mais c'est en même temps un grand artiste, toute une partie de son œuvre est consacrée à Tintin. Et en regardant son œuvre au long des années, j'ai vu qu'il se mettait dans la figure de Tintin pour structurer sa fragilité psychique. Et c'était tellement visible que je l'ai compris chez lui. Et après, je me suis dit, mais est-ce que Luc est différent de nous autres? Peut-être que nous autres, qui paraissons plus ou moins comme des personnes équilibrées, on a les mêmes mécanismes, sauf qu'ils sont plus excessifs chez quelqu'un qui a rencontré ces difficultés psychiques. J'ai sauté le pas. Je me suis questionné moi-même, j'ai questionné les gens que je sentais, que je connaissais, pourquoi est-ce qu'ils s'intéressaient à cette saga, et j'en ai conclu qu'au fond, Luc Giard m'avait fait comprendre qu'on était tous pareils, donc on avait besoin de la peau de Tintin pour se sentir fort. À partir de là, je suis revenu à mes émotions d'enfance, parce que aujourd'hui, avec toute la couverture un peu intello qu'on s'est donnée pour exercer notre métier, on oublie nos émotions d'enfance. Mais en me les rappelant, moi je me suis aperçu qu'au début, quand le curé du patronage, il nous passait les films en noir, les films entre guillemets, en noir et blanc de Tintin, j'avais peur, ça me faisait peur. J'étais effrayé de ce que je voyais. Je me rappelais la scène dans Le secret de la licorne, ou dans Le trésor de Rackham le Rouge plutôt, où pendant 7 pages successives, il y a une espèce de fantôme sur le Sirius. On ne sait pas qui a volé le poulet, qui a volé la couverture. Pour un gamin, ça fait peur. Nous, ça nous fait rigoler, mais ça fait peur. Et à la fin, Tintin et Haddock approchent de cette barque de sauvetage qui est fermée. On entend des ronronnements et où l'un des deux dit « il y a quelqu'un dans cette barque » et où on attend que ça ouvre. Mais j'avais une trouille monumentale et on découvre Tournesol et on est à la fois soulagé, mais en même temps l'effroi est toujours là. Donc, l'enfant, on n'a pas assez insisté là-dessus en psychologie. Le rapport au monde de l'enfant ou du petit enfant, c'est la peur. C'est quelque chose de fondamental chez les enfants. On a peur. Et en prenant ce fil d'Ariane, j'ai bien vu que Hergé, d'un côté, jouait constamment sur la peur des enfants parce que lui-même était un homme qui avait eu peur toute sa vie et qui, peut-être adulte d'ailleurs, continuait à avoir peur. Mais en même temps, il amenait le remède à la peur en nous amenant ce petit Tintin tout-puissant qui n'avait peur de personne et qui, au contraire, nous emmenait dans l'aventure. Or, le deuxième, pour moi, le deuxième sentiment fondamental de l'enfance, c'est le désir de foutre le camp, d'échapper à ses parents, de partir à l'aventure, mais il est contrebalancé par la peur. Alors, je me fais peut-être une idée schématique, un peu élémentaire de l'enfance, mais en me souvenant de ma propre enfance, j'ai eu l'impression que j'ai toujours été partagé entre, au moins petit enfant, la peur, et puis Ensuite, le désir de partir. Le désir de partir ayant fini par triompher sur la peur. Il m'a semblé que des œuvres comme Tintin, mais d'autres aussi, peut-être, mais surtout Tintin, pouvaient nous aider à vaincre cette peur. Et c'est là où j'ai présenté, avec, je dois le dire, modestie, mais d'un autre côté quand même une certaine assurance, cette hypothèse qui est au centre du livre et que vous avez gentiment rappelée.